podcast de l'UA. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez See More Blue, un podcast rattaché au séminaire de recherche du même nom, qui est basé à l'Université d'Angers. Je m'appelle Béné Meillon et je suis professeure des universités à l'UA à Angers, où je suis responsable scientifique du séminaire de recherche interdisciplinaire See More Blue. Alors pour l'année 2024-2025, je suis entourée pour la conception de ce podcast de deux jeunes chercheuses, Valentine Porcil, doctorante à Nantes Université, et Lucie Véju, étudiante en deuxième année du master Humanité environnementale à la NU également, et stagiaire à l'UA, dans le cadre du séminaire de recherche See More Blue, sur lequel repose donc la réalisation de ce podcast. Dans ce podcast, comme dans le séminaire de recherche éponyme, nous nous intéressons aux perceptions, aux représentations et aux imaginaires de l'eau, des mers et des océans. Pour ce faire, nous analysons des récits, des imaginaires et des représentations qui émergent de la littérature et des arts, mais également des sciences humaines, des études culturelles et des sciences dites du vivant. Nous convions ainsi des chercheurs et des chercheuses dont les travaux relèvent de disciplines variées à venir nous parler d'imaginaires océaniques et aquatiques pour plonger avec elles et eux dans des mondes bleus et pour bleuir ainsi notre compréhension du monde. Pour plus de détails sur les objectifs de ce podcast et le contexte dans lequel il évolue, nous vous invitons à écouter l'épisode pilote que vous trouverez en ligne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lucie Véju et nous accueillons ensemble Bertrand Guest, qui est maître de conférence à l'Université d'Angers, pour le 5e épisode qui sera consacré aujourd'hui aux imaginaires de la mer en lien avec les questions sociales dans les romans maritimes lus dans une perspective éco-critique bleue. Et avant de commencer d'accueillir Bertrand, je voudrais préciser que cet épisode a été préparé grâce à un travail en amont réalisé aussi par Valentine Porcil, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais que nous remercions. Alors bonjour Bertrand.
Bonjour Béné, bonjour Lucie et bonjour Valentine, même si elle n'est pas là.
Bertrand, comme tu fais partie de mon laboratoire, je vais rester sur un tu, hein, on ne va pas artificiellement se mettre à se vouvoyer. Je voudrais commencer par te demander de te présenter en quelques mots et de nous dire comment tu en es venu à t'intéresser aux questions bleues, au domaine des humanités bleues.
Merci beaucoup. Et pour cette question, effectivement, moi je travaille en littérature comparée, littérature générale et comparée, et c'est vrai que je travaille aussi en éco-critique tout court, éco-critique comparée du coup, pas d'une couleur ou d'une autre, plutôt du coup verte par défaut, et ça n'est pas forcément en ayant conscience de m'inscrire, se faisant dans des humanités bleues, que j'en suis venu à ces corpus dont il va être question, par deux biais. Un biais pédagogique, en fait, qui était le désir de travailler sur les romans prolétariens et des lectures qui m'avaient conduit à lire des romans, donc de la lutte des classes embarquées en mer, dans lesquels la thématique environnementale était en question, c'est-à-dire un peu toile de fond, un peu au centre, mais jamais, peut-être un peu sur un plan métaphorique, on va dire. Ça, c'est un biais. Et le deuxième, c'est plus tard où un groupe de travail à Rouen a organisé une journée d'études sur le fleuve. Et c'est comme ça que j'en suis venu aussi à travailler sur l'eau plutôt douce et des questions là aussi, sans l'avoir trop calculé, de justice sociale, d'injustice, de métaphorisation de la colère par l'eau. Donc, une entrée un peu mytho et symbolique, mytho-critique et symbolique, on va dire.
Merci.
Merci beaucoup. On va continuer donc sur peut-être sur cette métaphore du fleuve. vous avez évoqué dans l'intervention que vous avez faite pendant la troisième journée d'études 6 mois Bloom, un mythe qui retrace des tentatives de domptage d'un fleuve. Alors je veux bien une petite aide pour la prononciation.
Je vais essayer parce que j'ai un niveau un peu débutant en chinois, mais je me suis intéressé à cette langue il y a quelques temps, donc en essayant de pas écorcher les noms, effectivement, il y a ce mythe qui retient beaucoup l'attention, en tout cas qui, moi, me paraissait très parlant, et je voulais ouvrir là-dessus, qui est extrait d'un livre très ancien, un des grands classiques, dit-on, de la littérature chinoise. La notion de classique, hein, c'est... Il y a des classiques pour toutes sortes de grandes choses, classique des chansons, classique des documents, le classique du mouvement aussi, le classique des mutations, le Yi Jing, assez connu en Occident, le Yi Qing. Et donc là, c'est dans le classique des documents, le She Jing, et dans le She Jing, on nous parle d'empereurs mythiques inventant l'irrigation. Donc ce mythe me paraît super intéressant. En gros, c'est la dialectique de comment est-ce que l'homme se rend comme maître et possesseur, j'ai envie de dire, pour citer Descartes un peu de manière anachronique. Mais justement, il s'agit pas forcément dans ce mythe-là de se rendre comme maître et possesseur de la nature ou des eaux ingouvernables du Huangre, le fleuve jaune du nord de la Chine, mais peut-être plutôt de jouer avec, si j'interprète correctement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux figures intéressantes. Il y a un premier gouverneur des eaux qui échoue à endiguer, à mettre le fleuve dans des digues et à le retenir, à lui interdire une partie des terres. Et donc, il est mis à mort par l'empereur à cause de cet échec. Et on demande à son fils, qui du coup devient Yu le Grand, de faire la même chose et lui s'y prend de la manière opposée en ne cherchant pas à mettre le fleuve dans des murs, mais plutôt à laisser s'écouler la colère ou le caractère ingouvernable du fleuve et le laisser en quelque sorte féconder la terre. Et donc, ce serait l'inventeur mythique, légendaire de l'irrigation dans des temps très anciens.
C'est intéressant parce qu'il y a l'idée un petit peu de faire avec ou de plutôt que de faire contre.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est très taoïste, en fait, comme idée. C'est je ne vais pas contre pour imposer ma volonté qui est construite, constructiviste, qui serait de l'ordre du projet, du bâti, de l'intervention humaine, prométhéenne, on pourrait dire. C'est plutôt, effectivement... l'optique de faire avec et donc de, comme dans les arts martiaux ou la médecine traditionnelle chinoise que je ne connais guère, mais qui est l'idée de ne pas aller contre une force qui s'exprime, mais de faire avec, de l'accompagner, d'en jouer. Il y a un concept qui est au cœur d'un livre que j'avais pas cité dans la conf de François Julien. Alors, c'est un sinologue qui a l'avantage de comparer avec d'autres grands massif de pensée, notamment grec, dans son livre qui s'appelle La propension des choses, il parle du che. Alors, c'est pas le même che que dans le sheji, c'est un autre che qui veut dire le cours des choses, la façon dont les choses se développent d'elles-mêmes, spontanément. Et l'idée, c'est que, aussi bien à la guerre, malheureusement, qu'en poésie, qu'en musique ou en irrigation, l'idée, c'est de l'identifier et d'aller avec dans le sens du courant.
Alors, dans un contexte culturel vraiment très différent, tu as travaillé sur le géographe et poète Élisée Reclus et sa célèbre histoire d'un ruisseau. On reste quand même sur le sujet des ruisseaux, c'est notre petit fil conducteur là. Donc, un ouvrage qui a été publié en 1869. Est-ce que tu pourrais nous exposer, s'il te plaît, sa thèse et la démarche qu'il entreprend dans cet ouvrage et ce en quoi, pour toi, c'est vraiment fondamental ?
Merci beaucoup, c'est une question très très émouvante pour moi et très très stimulante parce que Histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus, c'est un livre vraiment révélation un peu pour moi. Au moment de ma thèse, ça fait partie de ces nombreux livres d'Élisée Reclus. Lui, il s'est vraiment singularisé comme un livre que j'ai tout de suite trouvé très parlant. Deux, trois éléments de contexte, c'est un livre grand public qui est conçu en fait comme une géographie amoureuse, on va dire une géographie poétique, très poétique dans son écriture. Il y a des livres entre guillemets plus sérieux d'Élisée Reclus, mais celui-là, il est aussi un livre de prix pour les écoliers. Par exemple, on en retrouve dans toutes sortes de brocantes ou de librairies un peu populaires, on va dire. C'est un livre qui a beaucoup beaucoup essaimé, qui a beaucoup circulé lui-même. Et quel est le parti pris? Il est un peu plus simple en fait en apparence. C'est on va suivre la goutte d'eau de sa source dans les neiges éternelles, premier chapitre en gros, pour aller jusqu'à la mer. Et le ruisseau, en fait, il devrait pas s'appeler ruisseau tout le long du livre. Il finit par être une rivière, un fleuve, un affluent. Il y a cette idée-là aussi d'une mutation de l'être. Il y a une métamorphose, il y a un devenir fleuve du ruisseau, qui est assez passionnant, une façon de faire de la géographie en ne s'accrochant pas à des essences, mais en suivant en fait des processus de transformation. Et c'est un livre en fait très descriptif d'une espèce de ruisseau générique, l'histoire de tout ruisseau. L'idée, c'est presque de faire une géographie universelle, hein, ce qu'il fait par ailleurs, c'est-à-dire de penser ce à quoi donne lieu dans des sociétés humaines l'existence de l'eau, la traversée de l'eau, socialement. Par exemple, il va traiter des thèmes assez surprenants peut-être pour nous. Bon, dans le livre qui a un peu son pendant, qui s'appelle L'histoire d'une montagne, qu'il a écrit 2 ans après en prison. C'est assez étonnant de voir qu'il a écrit un livre qui est une déclaration d'amour au monde extérieur depuis une prison à Brest. Bref, dans ce livre, il parle des crétins des Alpes et de leur manque de tel ou tel élément nutritif. Il naturalise aussi les problèmes sociaux qui sont liés au fait d'habiter une région reculée, qui a un régime alimentaire différent. Et pareil dans l'histoire d'un ruisseau. Il y a aussi cette idée de célébrer le plaisir du bain, la structuration d'un village ou même d'une société plus complexe autour de l'eau. Le tout de façon très simple, descriptive et en même temps très parlante. C'est une géographie qui donne envie à tout un chacun, je pense, de devenir géographe aussi.
Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire? C'est par rapport à la façon dont tu as introduit cette œuvre dans le reste de l'œuvre de Reclus, en disant que c'était une œuvre très poétique. Alors effectivement, à t'entendre, bon, moi je ne l'ai pas lu, mais à t'entendre, on voit bien qu'il y a une dimension éco-poétique qui a été développée dans ce texte. Et tu l'as opposé presque, hein, de façon implicite, à des écrits plus sérieux. Et en fait, ça m'interroge beaucoup, cette distinction que tu ferais entre une façon d'écrire poétique qui ne serait pas sérieuse, alors qu'il me semble que il y a des plumes éco-poétiques qui relèvent d'un grand sérieux. Et je voudrais te demander qu'est-ce que tu entends par là.
Bien sûr, merci beaucoup pour relever cette contradiction, parce que je pense vraiment comme toi que, au contraire, ce qui passe pour non sérieux est parfois ce qu'il y a de plus sérieux. Alors, pas sérieux au sens lourd, grave, inutilement engoncé dans des lourdeurs, tractatiques, par exemple, en termes d'écriture. Un livre qui s'appelle Traité, ça fait plus sérieux qu'un livre qui s'appelle Histoire d'un ruisseau. Et en même temps, dans Histoire d'un ruisseau, ce que j'ai pas encore développé, c'est vrai, c'est il y a ce mot histoire au sens d'enquête, de déployer les multiples couches d'un phénomène et d'aller des débuts à la fin de l'expression de ce phénomène. Il y a aussi l'idée d'historiciser l'eau. Ça veut dire que en fait, pour Élisée Reclus, la géographie, c'est une histoire dans l'espace. Et indissociable pour lui, c'est en quoi il est une sorte de fondateur de la géographie moderne, d'une histoire universelle, là aussi, qui est à penser comme une géographie dans le temps. Donc, c'est une citation qui est assez célèbre de lui. En disant ça, il hérite du romantisme, et notamment au romantisme allemand. Il n'invente pas cette idée. Mais il y a vraiment l'idée que, au contraire, écrire poétiquement va être bien sûr la meilleure manière, la plus adaptée, de coller au monde, d'être un observateur dans le paysage, c'est-à-dire pas un moi qui se distingue de la nature, mais plus exactement un moi vibrant qui est dans le paysage et qui indique les interactions entre lui et le milieu. Il y a toutes sortes de fils qu'il tisse avec beaucoup de sérieux. Et en même temps, je trouve aussi une forme de légèreté bienvenue, parce que il ne s'agit pas d'être pris au sérieux ou de se prendre lui-même trop au sérieux. Il y a une idée de ne pas séparer d'un côté les savants qui sauraient et qui auraient un langage spécifique estampillé comme sérieux, et d'autre part, le peuple, tout un chacun. Sa géographie est populaire, elle se veut dite dans les mots de tout un chacun pour circuler. C'est une des premières géographies aussi à être au service des mouvements sociaux, des ouvriers, des paysans, et non pas seulement, comme l'avait écrit Yves Lacoste, dans un livre assez célèbre chez les géographes, à faire la guerre. C'est-à-dire, selon une formule assez connue, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Produire des cartes d'état-major, pour envahir des territoires, etc. Chez Élisée Reclus, qui est anarchiste, il faut vraiment avoir ça en tête, bah, au contraire, la géographie, elle sert à, non pas s'approprier, mais à dialoguer avec son milieu. Voilà.
Et est-ce que tu voulais dire que dans cette œuvre, peut-être Élisée Reclus a travaillé une plume qui est différente de celle de ses œuvres, de ses autres œuvres, que il a un langage plus technique, plus aride, plus conceptuel, peut-être qui se veut plus scientifique, et que là, il s'est permis, au niveau vraiment de la plume, du style, de c'est ça que tu voulais souligner?
Pas forcément, merci de m'y faire revenir parce que je soutiendrais plus volontiers l'idée qu'il y a une plume assez cohérente, unie de Élisée Reclus, de l'homme et la terre, alors ça c'est la fin de son œuvre, en remontant un peu le temps à la géographie universelle et encore un peu avant à la terre, phénomène de la vie du globe, pour prendre les trois gros massifs textuels de Reclus. Mais aussi des petits opus comme ça qui gravitent autour, histoire d'un ruisseau, histoire d'une montagne, où on pourrait aussi en parler, l'évolution, la révolution et l'idéal anarchique, qui est une sorte de fascicule anarchiste, mais géographique, et qui parle beaucoup d'eau. Eh bien, dans tous ces livres, moi, je postulerais au contraire, effectivement, qu'il a bien la même plume. Il faut quand même préciser que beaucoup de ces livres sont écrits à plusieurs mains. Du coup, la poésie de Reclus, il faut aussi la nuancer. Il écrit avec des contributeurs, notamment étrangers, de toute l'Europe. C'est une des entreprises de géographie écrite encyclopédiquement à travers un réseau de savants qui correspondent, notamment Léon Metchnikoff, Kropotkine, Bakounine, etc. D'autres anarchistes intellectuels savants d'Europe qui eux aussi pensent à faire une géographie qui soit un peu différente. Et je pense que sa plume, elle se reconnaît. Il y a des élans lyriques, des envolées. On n'a pas peur de l'enthousiasme. Et la science n'exclut pas l'enthousiasme.
Oui, merci. On peut tirer un petit peu ce fil de l'idée de d'une pratique un peu différente de la géographie qui nous conduit vers la géographie moderne. Vous avez évoqué également dans votre intervention une pratique non coloniale, voire décoloniale de la cartographie qui a pu être entreprise par ailleurs par des géographes et explorateurs comme notamment Humboldt. Est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu ce que vous entendez par là?
Oui, merci beaucoup, Lucie Véju. Alors, c'est quelque chose que j'avais défendu un peu dans un article que j'ai fait paraître en allemand, donc qui n'est pas beaucoup distribué en France, autour de la cartographie humboldtienne. J'avais postulé dans cet article que dans la géographie de Alexander von Humboldt, donc début du 19e siècle, bien avant Reclus, ouais, 70 ans avant, il y aurait une pratique, pour moi, décoloniale, entre guillemets, point d'interrogation, de la géographie. Alors, tout de suite, je balance un peu les nuances, mais il y a toute une bibliographie qui, au contraire, situe Humboldt dans une géographie coloniale. Il faut être clair, Humboldt, qu'il l'ait voulu ou non, a coopéré, a donné aux États-Unis naissants, par exemple, très expansionnistes, des cartes, des textes, des descriptions de où se situent les minerais, des choses comme ça. Donc, il y a tout un pendant qu'on pourrait plus classiquement qualifier de colonial, pour être honnête, dans la géographie humboldtienne. Ce qui néanmoins me fait pencher pour une lecture décoloniale de certains des aspects de son texte, à la fois les cartes, qui sont un texte comme un autre, un iconotexte, et la description textuelle des milieux, c'est l'idée que il chercherait à ce que sa géographie ne serve pas seulement un pouvoir, et si possible le plus puissant. Mais il y a aussi, bah, c'est notamment l'histoire que il est amené à décrire les Amériques espagnoles avec la permission du roi d'Espagne, Philippe IV, si je dis pas de bêtises à cette époque. Il a un laissez-passer, mais sur les cartes qu'il dessine, il n'y a pas d'écusson, il n'y a pas de marque du pouvoir à qui il inféoderait sa carte, par exemple. Il y a donc une carte qui est un peu libre. Deuxième élément, c'est une carte qui, pour moi, ne maîtrise pas les lieux. C'est une carte qui affiche ses limites, les limites à sa connaissance. Ça, c'est très, très intéressant de regarder. Il y a des cartes typiques de cette époque qu'on appelle des profils, où, en fait, il va faire aujourd'hui, on appellerait ça une coupe longitudinale. d'un paysage, on voit la roche, le ciel, et entre les deux, le trait d'horizon. Par exemple, une des plus célèbres, c'est une carte profil du Chimborazo, qui était à l'époque le toit du monde. On pensait que c'était la montagne la plus élevée du monde. Et lui, c'est pas du tout l'optique de battre un record, d'être le premier masculiniste à mettre ses augustes pieds au sommet d'une montagne vierge de tout pas humain. C'est pas du tout l'idée. Au contraire, puisque dans sa carte, il y a écrit « À cet endroit, j'ai commencé à saigner du nez. Là, je me suis dit qu'il valait mieux redescendre. Et puis, de toute façon, on est trois. Et l'idée n'est pas d'atteindre à tout prix le sommet. » Et donc, c'est pas du tout l'alpinisme, la conquête. Et cette carte, elle est une carte vécue. C'est assez intense pour aujourd'hui. On voit une carte qui est rapportée à un observateur situé, donné. Là, j'y vais avec des concepts d'aujourd'hui pour décrire une géographie d'antan, mais à mon avis, c'est un savoir situé, toujours ramené à un observateur. Par exemple, il y a quelque chose de très parlant pour moi, il ne parle jamais de données. C'est pas des données géographiques, c'est des observations. Ça veut dire que elles sont à rapporter à un voyage avec ses limites. Il y a beaucoup de cartes aussi où il dit, bah, ici s'arrête mon exploration. Au-delà de cette limite, c'est pas ça m'appartient, comme faisait Aguirre pour le roi d'Espagne, là encore, hein, le conquistador qui dit, partout où je porte mon regard, c'est à moi. Là, c'est pas ça, c'est mon regard s'arrête là, je ne sais pas ce qu'il y a au-delà, mais je peux supposer ceci, cela. Et on fait de la géographie un peu comme ça.
C'est une façon très située, finalement, de faire de la géographie.
Complètement. Complètement. Moi, je trouve ça extrêmement moderne en ce sens
Absolument.
et avec le meilleur et pour le pire. Là encore, l'idée n'est pas du tout de faire de Humboldt un saint ou d'en faire la géographie ou de dire, ou même reclus, hein, de dire, ah, ils seraient vierges l'un et l'autre de toute compromission avec un pouvoir ou un autre ou avec une errance idéologique. Par exemple, il y a beaucoup de choses, j'ai reclus pour revenir à lui ou on critique son engagement dans l'anarchisme par rapport au fait qu'à un moment, ça revient à soutenir ce qu'on a appelé la propagande par le fait, c'est-à-dire la violence anarchiste à l'égard de l'État, la Chambre, les bourgeois, etc. Il y a des choix idéologiques situés qui font que leur géographie n'est pas parfaite, mais c'est une géographie du mouvement, une géographie très...
Et qui quelque part reconnaît le fait qu'une géographie ne soit pas, enfin que leur but n'est pas d'essayer de produire, fait d'objectiviser l'espace, et qui reconnaît la façon dont leur arpentage des territoires influe et situe le regard qui est porté dessus. Enfin voilà, c'est en ça que c'est quand même très très moderne.
Ah, c'est tout à fait ça, le mot que tu prononces là est super important, l'objectivité ou la soi-disant objectivité. C'est tout l'enjeu de ces débats épistémologiques dès cette époque. C'est, en fait, pour les romantiques, hein, là je me situerais dans la lignée de Georges Gusdorf, fondement des sciences humaines. En gros, il étudie le passage des Lumières au romantisme et à ce que lui appelle la science romantique. Aujourd'hui, on vit un peu dans l'idée que le romantisme, c'est l'anti-science. C'est la réaction onirique aux sciences, c'est pas vraiment ça, hein. Il y a des sciences romantiques, il y a même des mathématiques romantiques. Et donc pour ce qui est de la géographie romantique, par exemple, c'est vraiment de dire il n'y a pas d'objectivité, elle n'est pas de ce monde, il n'y a que des points de vue situés. Et donc aujourd'hui, quand on lit des poètes romantiques et qu'on se dit ah ils projettent sur le paysage leurs états d'âme, c'est anthropomorphique, etc. Oui, mais pas que. Ça dit quelque chose d'une relation entre l'observateur situé et le lieu, les lieux où il se
Bien sûr.
trouve, qu'il et elle arpentent. Et je pense que du coup, il y a toute une relecture en fait à faire qui ne commence pas par un procès qu'on ferait aux romantiques de faire parler le paysage à leur place, en fait. Certes, ça peut arriver, mais il y a aussi une conscience très claire que il n'y a pas de science neutre. Les gens qui croient à une science neutre, c'est simplement qu'ils ont soit omis, soit eu la paresse de réfléchir à ce qui était leur biais. Et là, on a des géographes qui, au contraire, exposent leur biais.
Oui, et quelque part, en fait, je précise ça pour nos auditeurs, hein, parce que je pense que tous les trois, on est assez au courant, mais c'est quand même au cœur de débats très très importants aujourd'hui, la question de la vérité scientifique, de l'objectivité. Et c'est pas parce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose, une forme d'aporie, en fait, dans la recherche d'objectivité, puisqu'elle nous est parfaitement impossible, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas tendre vers l'objectivité. Et avoir conscience que l'objectivité totale n'est jamais possible. Et en même temps, quand on parle de savoir situé, c'est pas pour renoncer au savoir, c'est pas pour renoncer à une recherche de vérité, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de différence entre des faits et des opinions. C'est à l'inverse, aller vers la science la plus intègre possible, la démarche scientifique la plus intègre possible, qui admet, qui juste prend le soin de préciser qui parle, d'où je parle. Et en faisant ça, c'est pas pour dire que je renonce si je situe d'où je parle et qui je suis au moment où je parle. Ce n'est pas en aucun cas pour renoncer à essayer d'appréhender le réel de la façon la plus objective et intelligente qui me soit donnée de produire. C'est pour reconnaître, voilà, de façon la plus intègre possible, qu'il y a sans doute des biais, des formations aussi, bien sûr, qui déterminent ce qu'il m'est permis d'appréhender, de me représenter, d'identifier et de définir, et que forcément, ben, ce que je vais produire comme savoir est en partie prédéterminé, en partie orienté, voilà. Mais c'est jamais, évidemment, de faire ça, ça n'est ni prétendre que il y a aucun renoncement à essayer de tendre vers la vérité et vers une objectivité scientifique. C'est un petit peu complexe comme position, mais je sais pas si tu veux rebondir.
Ouais, je vais reprendre là où tu m'amenais. En fait, quand on dit objectivité, du coup, on postule qu'il y a un objet. Et c'est ce que Augustin Berg, alors il y a mille manières de le dire, mais dans le champ géographique, par exemple, une de ses façons de dire, c'est, lui, il appelle ça le topos objectivant moderne, ou le, alors je crois que c'est, en fait, c'est topos occidental moderne, le TOM. Bon. L'idée, c'est que, il y a d'autres façons que, l'appréhension scientifique occidentale et moderne, au sens 16e, 17e siècle, des choses. C'est-à-dire, justement, une manière de faire des choses, des objets, nos objets, des choses dans nos mains, que l'on peut manier, transformer, ouvrir le génome et écrire dedans. C'est pas dire que c'est bien ou mal, c'est juste que c'est une façon de faire et il y en a d'autres. Et il me semble que quand on manipule un objet et qu'on dit c'est mon objet, par exemple, en tant que chercheur et chercheuse, on est souvent amené à répondre à cette question, c'est quoi ton objet? Moi, j'ai pas d'objet. Évidemment, on dit toujours qu'une science se détermine par rapport à son objet, ce à quoi elle s'applique. Sous-entendu, pas le reste. Là, on a des géographies universelles, ou que moi j'ai appelées cosmiques, dans mon livre, et du coup, je suis intimement convaincu que elle renonce à choisir des objets, comme dirait Freud, hein, le choix d'objet. J'ai un seul objet de désir, de direction, et tout le reste m'indiffère. Là, c'est pas ça. C'est l'idée, alors j'emploierais volontiers, c'est ça que j'écrivais dans mes notes, le mot qu'utilise Laura Wolfs, qui est une scholar taurovienne, en fait, à propos de taureau. Elle parle de transjectivité plutôt qu'objectivité. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, je crois? C'est à chaque fois que je m'intéresse à une chose et que je me garde de la prendre comme un objet manipulable, un fleuve, je sais pas, un champ, un nuage, je dois mesurer ce que cet objet soi-disant me fait et en quoi je suis aussi l'objet de mon objet. En quoi étudier une chose transforme non seulement la chose, inévitablement. C'est-à-dire que ça, il faut absolument le mesurer. C'est l'intervention, qu'il le veuille ou non, qu'elle le veuille ou non, de l'observateur. Dès que j'observe, je modifie l'observé. Mais il y a aussi l'idée que l'observateur se transforme, là aussi, qu'il ou elle le veuille ou pas, par le simple fait d'observer. Regarder quelque chose, et donc en géographie, on fait ça en permanence, regarder quelque chose transforme toujours la personne qui regarde, dans un sens ou un autre, et de manière consciente ou pas d'ailleurs. Et donc là, c'est des géographes romantiques, voyageurs, qui évoquent en permanence leurs émotions esthétiques en même temps que leur relevé analytique, hein, le baromètre, la pression, le bleu du ciel, que sais-je encore, ou le fait de faire des cartes. Et on ne sépare pas les sentiments poétiques et les données factuelles, qu'on appelle d'ailleurs pas des données. Pourquoi ? Parce que en fait, tout ça est un mélange qui est interaction lui-même et qui transforme et l'observé et l'observateur dans une espèce de danse permanente. Des très belles pages sur, par exemple, les tropiques chez Humboldt. Le tropos, c'est le mouvement de danse. Je sais à qui je parle aussi en disant ça. C'est pas juste un décor pour la science, c'est vraiment, c'est une science qui mesure en permanence ce qui est fait à l'œil, au cœur, au cerveau qui observe, qui intervient. En fait, regarder, décrire, c'est déjà intervenir. Et du coup, c'est moi souvent, en fait, en écologie contemporaine, je me retrouve comme nous tous, nous toutes, face à une grosse question qui est qu'est-ce qu'on fait? Comment agir? Que faire? Et moi, j'ai toujours une petite voix qui dit attends, il y a peut-être aussi la question qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que faire, que agir? Il n'y a pas toujours un faire, il y a aussi un être, il y a aussi une manière d'être, d'interagir, en fait. Bon, Humboldt, c'est la grande référence de Thoreau et Reclus, c'est pour ça qu'il arrive avant et tout. Il y a une phrase dont moi je me suis jamais remis, c'est alles ist Wechselwirkung, c'est-à-dire tout est interaction réciproque. À chaque fois que je regarde un paysage, bah en fait ce paysage il me transforme et moi je le transforme en le regardant.
Bah, tu citais Augustin Beck, j'ai la chance d'être en sa présence. Surtout, je me rappelle d'un colloque à Lyon sur la question de l'Anthropocène et où il parlait de trajection. Et il me semble que dans ce concept de trajection, il y a un petit peu tout ce que tu viens aussi de définir. Et moi qui travaille beaucoup avec les nouveaux matérialismes, on a bien sûr la pensée de Karen Barad qui dit il n'y a pas d'interaction, il n'y a que des intra-actions. Et c'est cet enchevêtrement permanent, en fait, entre l'observant et l'observé, qui produit les phénomènes que nous décrivons finalement.
Complètement.
Alors, je voulais t'amener à parler d'une tribune que tu as mentionnée, qui a un titre assez provocateur, qui s'appelle Pleurnicher le vivant, une tribune qui a été proposée, publiée dans les blogs du monde diplomatique, publiée en 2021 et rédigée par l'économiste Frédéric Lordon, et dans laquelle ce dernier indique que ce qu'il appelle les penseurs du vivant, alors je vais te demander de préciser qui sont les penseurs du vivant auxquels il fait référence, ou peut-être les penseuses aussi, que ces derniers seraient davantage enclins à, je le cite dans ta citation, hein, je crois, à devenir ours ou à devenir abeille, qu'à nommer le système à la source de la destruction du vivant et à l'intensification des inégalités sociales. Bon, en gros, ils ne mentionnent pas assez, ou ils ne font pas assez le lien avec le capitalisme. Et j'ai cru comprendre, ça a fait l'objet, tu l'as rappelé lors de ta conférence, une petite discussion entre nous deux. Tu avais proposé une conférence dont le titre serait « Lorsque l'éco-critique bleue retrouve les questions sociales ». Et moi, j'avais un petit peu bondi, parce que je me dis « Mais enfin, Bertrand, l'éco-critique bleue naît de l'entrelacement des questions environnementales, sociales, postcoloniales. Qu'est-ce que j'ai oublié? Des études sur la globalisation, etc. Tout bon chercheur, toute bonne chercheuse qui travaille dans les éco-critiques bleues, dans l'éco-critique bleue commence par la lecture de Steve Mans, qui a vraiment posé que les humanités bleues naissent de la rencontre entre ces différents champs d'études qu'on ne peut pas, en fait, séparer à partir du moment où on s'intéresse aux questions bleues. Et j'avais l'impression que, selon toi, donc, ce reproche adressé par Frédéric Lordon à des penseurs et peut-être des penseuses du vivant, pouvait peut-être s'appliquer aussi à l'éco-critique, qu'elle soit verte ou bleue, hein, si on emploie ces raccourcis-là. En fait, l'éco-critique serait pas vraiment exempte de la même critique. Alors, je voudrais que tu nous dises, est-ce que c'est vraiment un constat que tu fais, que tu adresses à l'éco-critique, aux chercheurs et chercheuses en éco-critique? Est-ce que c'est aussi le cas de l'éco-poétique? Est-ce que tu fais une différence? Et si tel est le cas, comment pallier ces écueils selon toi?
Merci beaucoup, ça fait un super essaim de questionnement. Et alors, vraiment, je commencerai par dire que je ne me pose surtout pas en donneur de leçons. Je trouve intéressant l'interpellation que nous adressait donc en septembre 2021 dans cette tribune Frédéric Lordon. Pourquoi? Parce que alors, je le voyais moins comme une façon de brocarder sans faire de nuance toute l'éco-critique comme un champ des études qui serait en soi oublieux de la lutte des classes, parce qu'en vrai, je pense qu'il serait d'accord, je suis pas lui, mais il serait d'accord sans doute pour dire que dans les études universitaires, assez largement, en fait, cette question des inégalités sociales, de l'injustice socio-économique, elle a été depuis, allez, la querelle Foucault-Chomsky, par exemple, assez mise de côté. Enfin, en gros, les questions sociales, c'est plus trop à la mode. Donc, je pense que ce soit en éco-critique ou ailleurs, c'est quelque chose dont on peut peut-être convenir assez objectivement ou facilement. Moi, je le prends plutôt comme une invitation à être, comme tu viens de le dire, hyper exigeant pour que les enjeux que j'ai appelés rouge et noir, mais qu'on peut appeler complètement autrement, les enjeux sociaux, en gros, ne disparaissent pas derrière le cache-sexe de l'environnement, qui, du coup, ça serait super réducteur à commencer par les enjeux environnementalistes eux-mêmes, parce que ils ont mieux à faire que de servir de greenwashing, de cette manière-là d'éco-blanchir en disant, bah, tant qu'on s'occupe de la nature, ça fait déjà un combat, on n'a pas besoin de mettre trop l'accent sur les combats sociaux, etc. Je pense que quand on a les deux, comme tu viens de le dire en tête, autrement dit, quand on pratique une éco-critique exigeante et vraiment intersectionnelle, au fond, c'est ça, et je m'accorde totalement avec toi, et je trouve ce débat tout à fait sain et agréable, en fait. Au-delà du titre, voilà, que j'ai un peu modifié depuis, d'ailleurs, eh ben, en fait, c'est un petit débat interne qu'on a tous à tout moment, si on a l'exigence de ne pas oublier les combats sociaux et postcoloniaux et raciaux et envers les personnes sexisées, etc. Enfin, je veux dire, une intersectionnalité assez étendue et complète s'impose dans l'éco-critique. Moi, à mon avis, pour répondre à l'une des questions de ton essaim, enfin, c'est pas à moi de dire, de décerner des bons ou des mauvais points. J'observe dans mes lectures que parfois, c'est une exigence vraiment tenue, parfois non. Et je suis pas là, voilà, pour juger qui fait quoi. Mais c'est vrai que parfois, j'avais aussi employé lors de la conf, un petit peu cette expression des milieux militants, l'écologie sans la lutte des classes et du jardinage. Moi, j'aime beaucoup le jardinage. Il n'y a aucun problème avec le jardinage. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le monde des bisounours, l'écologie, ni l'éco-critique. Et du coup, ces questions de justice environnementale, de, par exemple, l'externalisation des conséquences du réchauffement climatique, pour prendre cet exemple, ailleurs qu'en Europe, notamment, c'est les populations les plus concernées par les conséquences du réchauffement climatique sont souvent les populations les plus exposées. Par exemple, aux cyclones, aux ouragans, avec un mal logement, etc., une habitation plus précaire. C'est des questions qui sont toujours et rouges, et vertes, et marrons, pour reprendre aussi un terme, en débat. En débat, il y a
Mais
beaucoup
qu'est-ce que ça voudrait
d'utilisation.
dire la littérature, l'éco-critique marron alors?
Moi, la première chose à laquelle je pense quand j'entends marron, en fait, c'est plutôt l'écologie décoloniale avec Malcolm Ferdinand. Et l'idée du marronnage, et ce qui est plus qu'une idée, enfin, c'est toute cette histoire de tentative de survivre à la déportation, à l'esclavagisme, au déracinement de peuples entiers à la faveur du commerce triangulaire transatlantique. Donc, il y a l'idée de trouver des biais, des voies de sortie, des ruses, des survies, des guérillas, des voies de côté, qui sont pas des fuites, mais des manières, en fait, d'essayer d'aménager la survie dans un monde hostile et fait d'enlèvement, d'aliénation. Il y a ça dans le marronnage. Et plus récemment, il y a un livre de Pierre Skuntius où il est question de littérature verte et de littérature marron. Il oppose les deux dans littérature et écologie, le mur des abeilles. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que en gros, il nous propose à ce moment-là une typologie. L'intention est plus que louable. Il y aurait dans l'écolittérature, si j'ai bien compris, une littérature militante d'une part, et par ailleurs une littérature qui chante la merveille, la beauté du monde, littérature verte, hein, donc en gros chanter ce qu'il y a de beau dans le monde. Et la littérature marron, pour lui, ce serait chanter les désastres, enfin chanter, déplorer, regretter. Instruire, documenter les désastres environnementaux. Mais donc, à quel moment, à quel endroit je me situe si j'écris sur Tchernobyl, mettons, et sur la beauté paradoxale qu'il peut y avoir à survivre à Tchernobyl, ou que les myrtilles sont très nombreuses à fleurir l'été de Tchernobyl, par exemple. Il peut y avoir à la fois du désastre et de la beauté. C'est tout le problème de la géographie. À tous instants, elle est face à la fois à des choses catastrophiques et du beau. C'est, soit dit en passant, c'est aussi un poète romantique allemand qui écrit que là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. C'est Hölderlin. Moi, je pense que c'est justement ça, l'éco-critique, c'est une espèce de conséquentialisme, en fait. C'est, j'ai une pensée qui n'oublie personne, dans la mesure du possible, qui essaye de penser les différences en articulant des échelles et en ramenant tout à un seul et même monde habité. c'est pas facile.
Bah.
Ça veut dire complexité, quoi.
Ouais. Et en fait, ça m'étonne un petit peu cette distinction que fait notre collègue Pierre Skounchez, donc qui travaille à l'université du Gand en Belgique, dans un contexte très francophone, pour situer là où moi ça m'interroge un petit peu ou ça m'étonne, c'est que d'un point de vue de la littérature états-unienne et qui vient d'Amérique du Nord plus largement, bon, il y a eu d'abord cette proposition, et donc je me demande si c'est peut-être ça que Pierre Skounchez sous-entend, c'est qu'il y aurait d'une part l'éco-critique, d'autre part l'éco-poétique. Alors moi, je voudrais rappeler que l'éco-poétique, c'est quand même une branche de l'éco-critique, et que c'est la branche de l'éco-critique qui, au-delà de l'intérêt dans le texte pour des questions environnementales, sociales, qui on va s'intéresser à l'histoire des sciences, etc., on va aussi se poser la question de la façon dont les langages de la nature et les formes de la nature finalement viennent donner forme au langage qui est en train d'être créé ou aux formes artistiques qui sont en train d'être créées en écho, en réponse, en conversation, en dialogue avec la nature autre qu'humaine, dont partent les artistes. Donc on pourrait se dire, de façon très pratique, très concrète, souvent quand on publie un petit article où on fait une communication de 20 minutes dans un colloque dans lequel on est très limité finalement en termes d'envergure. Quand on écrit tout un ouvrage, on a plus de marge de manœuvre, on peut écrire jusqu'à 300 pages, et donc on peut aussi aller tirer différents fils. Alors il est possible parfois d'avoir l'impression qu'une publication en éco-poétique ne se soucierait par exemple que de questions de poétique, du texte, de stylistique, de narratologie, etc. La fabrication du texte poétique. Et on pourrait avoir l'impression, peut-être dans certains articles, que au contraire, la personne qui écrit cet article se focalise uniquement sur des questions environnementales, écologiques, politiques, idéologiques, et donc on serait dans une approche plus thématique de la littérature, plus engagée. Je sais que Pierre Skounchez, par exemple, était venu à Cerisy nous parler lors du colloque qu'on avait organisé « Que peut la littérature sur le vivant ?» pour le vivant, de textes qui seraient plus du côté de la militance et d'autres qui seraient plus du côté de la poétique. Alors moi, ça me pose problème dans le sens où tout mon travail depuis 20 ans s'intéresse à des auteurs et des autrices qui appartiennent, et pour situer d'où ils ou elles écrivent, ils et elles écrivent de peuples ou de groupes minorisés, que ce soit pour des questions de genre, pour des questions de classe. Je travaille principalement sur des auteurs et des autrices qui appartiennent en partie ou entièrement à des peuples premiers, et où, quand c'est pas des peuples premiers, à des groupes ruraux, et qui donc souffrent et ont des rapports à la nature qui sont complètement déterminés par leur mode de vie ruraux. Et alors moi, je travaille vraiment avec une lecture éco-poétique de la poésie, du travail aussi sur la langue. Et en fait, on peut jamais divorcer un aspect de tous les autres aspects de ces textes, qui sont à la fois des chants, qui sont des façons de chanter en réponse à. Et donc, moi, je m'intéressais bien sûr aux paysages sonores et comment ces paysages sonores sont diffractés, mais qui, en même temps, dont le chant même est un acte de résistance. Et il y a un très bel article qui remonte déjà, par exemple, je pense aux travaux de Scott Slovic, qui avait étudié le caractère éminemment puissant de ce que fait Rachel Carson, notamment dans Silent Spring, allie un ton, une tonalité où elle pleure le vivant en train de mourir, la disparition, les pertes en termes de biodiversité. Donc il y a quelque chose d'élégiaque dans son ton, mais en même temps c'est associé à un discours résistant, militant, et bien sûr nourri de science et de savoir écologique. Et en fait c'est là la puissance, enfin les textes les plus puissants sont ceux qui allient tout ça. Alors pour moi, dans éco-poétique, il n'y a pas d'un côté écologie et de l'autre côté poétique, on ne peut pas les dissocier. Alors je suis un petit peu étonnée personnellement de lecture de textes, et je me demande mais en fait finalement ça concerne quel texte qui serait que du côté du vert si ce serait chanter la beauté d'eux, ou que du côté du marron qui serait se préoccuper de problèmes sociaux. Parce qu'honnêtement, je ne vois pas où et comment et qui pourrait faire ça, en fait.
Ouais, complètement. Alors, en fait, ce que tu dis m'inspire une chose. En gros, c'est quand on dit il y a éco-critique d'un côté et éco-poétique de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça? On opposerait une espèce de lecture plus contextuel. Donc le contexte d'un côté, l'éco-critique, ah oui, mais un texte littéraire, il vient toujours d'un contexte qu'il s'agit d'élucider, et d'autre part, une façon de faire, un style, une écriture. En fait, quand on fait ça, c'est comme séparer l'homme de la nature. C'est un nouveau dualisme, en fait.
Bien sûr.
C'est exactement tout ce contre quoi toute la pensée écologique intéressante, je pense, s'inscrit aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas séparer justement l'observateur d'un côté, la nature de l'autre, le moi d'un côté, le monde de l'autre. Justement, ce qui nous intéresse, ce qui nous importe, c'est l'interaction. C'est ce qui se tisse de l'un à l'autre et retour en permanence. Alors, si on postule ça, il n'y a pas de contexte sans texte. Il n'y a pas de texte sans contexte.
Bien sûr.
Et donc, bien sûr que nous, universitaires, on est habitués à faire en CM du contexte, en TD du texte, quitte à faire comme des structuralistes qui disent en TD, bah, on regarde le texte, c'est un poème, c'est un petit organe. Et en fait, peu importe sa coloration, son monde politique, c'est un poème en soi. Donc, y a, dans les deux, il y a un excès qui consisterait à oublier le contexte en parlant du texte, parce que ça mérite en soi d'être fait, hein, de rentrer dans les textes poétiquement, stylistiquement. Et l'autre écueil, effectivement plus états-unien, consistant à dire « distant reading », je regarde ma littérature de loin, et en fait, c'est des idées qui pourraient se dire autrement, dans d'autres mots. Donc je pense que là encore, une éco-critique telle que celle à laquelle on s'attache et qu'on pratique, on se retrouve dans l'idée que elle est toujours les deux. C'est comme les deux jambes, quoi. Enfin, on peut avoir plus de deux jambes ou moins de deux jambes, mais c'est toujours intéressant de pratiquer les deux, l'une en regard de l'autre, quoi. Et moi, ça, voilà ce que ça m'inspire, c'est-à-dire que si on se garde pas de cet écueil, on retombe dans un naturalisme qui dit pas son nom. Une pratique humaine que serait la poésie, comme si effectivement il n'y avait pas une poésie autre qu'humaine, plus qu'humaine, complètement d'accord. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs une poésie non langagière. Il y a la façon dont le bruit du monde, le chant du monde, de Jacques Tassin, par exemple, l'un à l'avoir formulé aussi à Cerisy dans le colloque que vous aviez organisé. Cette idée que le monde, il nous parle, et donc le poète, la poétesse, la poésie des gens qui en font, de la poésie environnementale, pour aller vite, elle consiste à faire entendre ce bruit du monde en court-circuitant l'opposition, le duel entre un moi et le reste, quoi. Moi, je suis assez partisan du fait que l'éco-critique, c'est quand même plutôt une histoire de regard qu'on porte sur toute littérature, y compris celle qui n'est pas estampillée d'avance comme intéressée par des sujets de nature ou d'écologie. Je trouve ça porteur, donc une éco-critique. Mais au fond, l'éco-poétique, je pense pas qu'elle soit opposée à ça.
Non.
C'est des lunettes éco-poétiques, on pourrait dire aussi bien.
Et si je peux me permettre, je voulais juste rappeler pour nos auditeuristes qui peut-être ne sont pas forcément familières, que l'origine du terme, enfin de la notion d'éco-poétique, elle nous vient avant d'être un terme qu'on emploie en France, dans le domaine universitaire français. Elle a quand même été développée par des anglophones, notamment par Jonathan Bate dans The Song of the Earth, par Jonathan Skinner, qui a publié les premières revues dédiées à l'éco-poétique en anglais, et puis par surtout Jonathan Bate, qui fait un travail de micro-lecture, de micro-analyse d'éco-poètes qui est absolument magnifique. Et donc, je vais juste rappeler que l'éco-poétique n'appartient pas, ce n'est pas une démarche qui appartient à l'université française ou aux approches francophones. Il est vrai qu'en France, nous avons des formations qui vraiment attirent notre attention sur la dimension stylistique, narratologique, voilà comment est composé un texte. Et je voulais juste aussi, par rapport à l'éco-poétique, rappeler par exemple, moi qui travaille beaucoup sur la diffraction des paysages sonores, pas que, aussi olfactifs, haptiques, qui s'entremêlent dans le monde, ce que j'essaie souvent de démontrer, c'est que les éco-poètes qui écrivent en dialogue avec ces paysages sonores sont conscients et en fait font la lumière sur le fait que quand un paysage sonore s'appauvrit, quand on n'entend plus que de l'anthropophonie, pour reprendre le terme proposé par Bernie Krause, qui a divisé en gros la composition des paysages sonores entre trois types de sons et de bruits, se produit par les humains, donc l'anthropophonie, se produit par les éléments naturels comme le tonnerre, un volcan, un orage, le bruit des vagues, donc la géophonie, et puis la biophonie qui sont les bruits et les sons produits par tout ce qui est vivant, donc les insectes, les oiseaux, un ours, etc. Ce que je voulais vraiment, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'en fait, par exemple, dans les textes que j'étudie, il ne s'agit pas que, parce qu'il y a un peu un a priori qu'en éco-poétique, c'est des gens qui s'extasient de façon extrêmement naïve sur et qui chantent la beauté du vivant symphonique. Non. L'idée, c'est de montrer qu'en fait, quand on s'attache à la symphonie du vivant qui est co-construite par les éléments naturels, par du vivant et par des humains, il y a, ça a été démontré par Bernie Krause et aussi par Murray Schafer, à qui on doit le concept de paysage sonore à l'origine, il y a en fait une harmonie des paysages sonores, puisque toute personne inscrivant son chant et ses bruits dans le monde, notamment les vivants, alors personne ou les vivants, le font en fonction des niches, des fréquences sonores et de niches acoustiques qui sont disponibles. Et qu'à partir du moment où les humains, par nos activités, nous produisons une cacophonie, un bruit permanent de nos activités, on sature des paysages sonores et on empiète sur les niches sonores d'autres qu'humains. Et en fait, voilà, moi je comprends pas comment on va faire de l'éco-poétique, par exemple. Et
c'est pas moi qui l'ai expliqué. Hein.
Quand on travaille sur des textes, je veux dire, sans se préoccuper de questions écologiques, politiques, thématiques, etc., parce qu'en fait, on est quand même dans des textes qui justement dénoncent et résistent à l'empiètement en partie sur des paysages, en partie sonores, de nos activités anthropiques, et puis on n'a pas tous la même empreinte sonore. On parle beaucoup du fait que l'anthropocène n'est pas forcément le bon concept, parce que tout le monde n'a pas la même empreinte carbone sur la planète, mais la même chose est vraie des paysages sonores. C'est bien sûr le capitalisme industriel qui produit le plus de bruit, de chaos sonore, et qui vient semer un trouble dans des paysages sonores qui sont en équilibre. Et donc, en fait, quand on s'intéresse à ça, bien sûr qu'on va s'intéresser à quelles industries qui produisent le plus de bruit. Voilà, qui peut prendre l'avion, qui peut... Tout ça, c'est entrelié pour moi. Pour moi, c'était important de revenir sur ces questions-là.
Cette idée d'imbriquer plusieurs questions, d'imbriquer des questions écologiques, politiques, je trouve qu'elle se prête particulièrement au milieu aquatique, finalement. Il y a vraiment ça dans les milieux marins, notamment sur le plan de l'écologie décoloniale, il y a toute la question de l'eau comme lieu où la brutalité coloniale s'est exprimée. Et notamment, vous nous avez parlé de la notion de liquid violence et d'un projet qui s'appelle Forensic Oceanography, qui nous a rappelé en fait que les espaces maritimes, comme l'Atlantique ou la Méditerranée, étaient vraiment des lieux où s'est manifestée l'instrumentalisation de corps racisés et où ça continue de se manifester. Est-ce qu'on pourrait peut-être aussi développer un petit peu sur ce sujet et notamment sur la notion de négro-scène que vous avez abordée?
Merci beaucoup. Là aussi, c'est une question très riche et j'en profite pour saluer tout le travail d'intense préparation autour de ce, non seulement de cette conférence, mais en fait, après aussi de tout ce podcast qui est vraiment une belle manière, en fait, de remettre en discussion. Je trouve ça très appréciable. Et effectivement, je me référais à cette idée d'océanographie, comment on dit en français, forensic, c'est l'idée de la médecine légale. Hein. Donc, une médecine légale des eaux de la Méditerranée, c'était le projet de Charles Heller et Lorenzo Pezzani, entre autres. Et c'était quelque chose qu'ils ont fait en la fin des années 2010, en documentant, en géographes sociaux, le fait que, comme on le dit souvent, la Méditerranée... Et depuis de longues décennies, trop longues, un cimetière oublié aux marges de l'attention publique. Alors, leur concept, donc, effectivement, de liquid violence, il nous parle de la façon dont on fait tenir à la Méditerranée, dans cette histoire, en tant qu'espace bleu, un multiple rôle. Le rôle de bourreau, enfin, d'une certaine manière, on donne à la mer en quelque sorte le rôle de tuer ceux que on ne tue certes pas de ses propres mains, mais qu'on tue dans l'indifférence. Voilà, si j'ai bien suivi leur film, c'est cette idée que on sous-traite à la mer le fait de tuer dans l'indifférence de très nombreux migrants, migrantes en provenance d'Afrique et pour ceux qui est de la Méditerranée. Mais deuxièmement, c'était ça qui était intéressant dans leur projet aussi, c'est eux, ils disent, on va faire témoigner la mer. C'est-à-dire que la mer, justement, pour faire le lien avec la question d'avant, la mer Ah, un chant, ou quelque chose comme une parole silencieuse qu'on peut restituer et qui nous parle de tous les morts qu'elle engloutit, ou de toutes les personnes en vie, justement, plus exactement, qu'elle engloutit et qu'elle noie. La mère aussi, d'une certaine manière, a des choses à dire sur le sale rôle qu'on lui fait jouer dans cette affaire, qui consiste à la faire servir de cimetière, si j'ose dire, à son corps défendant. Il y a quelque chose de cet ordre dans leur projet que je trouve très très intéressant, Forensic Architecture et Forensic Oceanography. Et alors, il parle aussi de Situated Testimony, donc témoignage situé là aussi. Bon, dans le film, il s'agit essentiellement de montrer qu'en fait, des embarcations de fortune, même quand elles appellent au secours, ne sont souvent pas écoutées, voire sont sciemment laissées dans l'embarras jusqu'à ce qu'elles n'émettent plus. Et donc là, il y a une politique du silence, il y a une politique du bruit aussi, et dans laquelle la mère, en fait, est un acteur primordial, quoi. C'est évidemment que on n'entend pas dans l'eau les cris des personnes qui s'y noient, mais on peut trouver des moyens par l'œuvre cinématographique, littéraire, musicale, de recréer en fait ce son et ce cri.
Oui, ça peut nous faire penser à certaines des œuvres dont nous a parlé Anna Street, justement, de ces artistes qui immergent leurs instruments de musique.
Effectivement, Anna Street nous parlait aussi
De
de ces,
Jason de Kears Taylor.
voilà, de la façon dont les fonds marins peuvent être habités d'œuvres qui disent aussi les violences plus historiques et qui, pour le coup, font le lien avec le Negro Sen dont vous parliez, Lucie Véju. Et j'aime bien y revenir, c'est important. L'autre grand exemple auquel moi je pense quand je pense à voilà, la violence sociale exercée dans les eaux, au moyen des eaux, évidemment, c'est la déportation massive et les cales du Negro Sen. Et le concept est développé chez Malcolm Ferdinand, là encore, dans Une écologie décoloniale. Un point de vue caribéen sur les questions d'écologie ne peut pas, c'est pas non seulement faire l'impasse, mais nous parle là aussi de ce qu'a été ce déracinement gigantesque de masse, le fait que dans les cales des navires négriers, en fait, il y a un rapt de masse qui consiste à arracher des gens à leur terre d'origine, à les implanter de force dans des terres qui ne sont pas les leurs, avec tous les problèmes sociaux et environnementaux que ça pose, jusqu'au chlordécone aujourd'hui, avec cette économie négrière et cette économie surtout monoculturelle, pauvre, appauvrissante, toxique, qui maltraite encore celles et ceux qu'elle a commencé de maltraiter au moment de l'ère moderne, là aussi. Là. Le Negro Sen, c'est ça, c'est l'idée de... j'ai pas une définition très stricte en tête, mais je renvoie volontiers au livre de Malcolm Ferdinand.
Et alors, je vais toujours t'amener à poursuivre sur, tu parlais de la maltraitance de certains humains par d'autres humains qui entrent en jeu vraiment dans l'histoire maritime, en fait. Je voudrais t'amener à parler des livres, des romans sur lesquels tu as travaillé et que tu as amené dans la salle de cours, où tu t'intéresses aux maltraitances des travailleurs de la mer, hein, pour reprendre l'expression célèbre de Victor Hugo. Tu nous as parlé notamment de Takeshi Kobayashi et de son célébrissime roman qui a été traduit. Tu pourras peut-être nous redire dans combien de langues il a été traduit en français. Il s'appelle Le bateau-usine, je ne sais pas prononcer le titre dans ta langue originelle. Mais là, on est vraiment dans un exemple de quotidien cauchemardesque, de ces bateaux-usines qui a été décrit par différents romanciers, peut-être des romancières aussi, et qui sont vraiment à l'intersection avec des problématiques environnementales. On est dans des questions qui touchent à la pêche, à la surpêche et bien sûr à l'exploitation de tous ces travailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît?
Avec plaisir. Effectivement, bon, le petit bout de la lorgnette pour ce qui me concerne, c'était d'avoir monté un programme comparatiste en cours, tournant autour de la double articulation du roman de classe, hein, du roman écrit, donc roman prolétarien. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots? C'est important d'avoir cet aspect-là aussi. Un roman prolétarien, stricto sensu, c'est écrit par une personne qui ne peut pas avoir du temps libre pour écrire a priori. Donc, qui va déjà opérer une première transgression de sa classe, parce que a priori, un écrivain, une écrivaine de la classe des prolétaires, c'est-à-dire ceux, selon Marx, à qui on laisse tout juste comme moyen de subsistance de quoi se lever le lendemain matin pour retourner au travail, hein. C'est ça, le prolétaire, c'est celui qui n'a pour force, enfin, pour capital, en fait, que la force de se reproduire. Quand il l'a, ou quand elle l'a. Bon, ce qui est d'ailleurs ultra présent dans ces romans-là, hyper sexualisé. Il y a toutes sortes de choses à dire là-dessus aussi. Bref, bon, j'avais rapproché donc effectivement le Kanikosen, bateau usine à crabe, de Kobayashi Takeuchi, donc qui est un roman prolétarien des années 20, qui a longtemps été interdit au Japon, traduit par Evelyne Le Signe d'Oly en français il y a quelques années, qui est vraiment une lecture choc. C'est un roman crasseux, plein de beriberi, de poux, de conditions, tu l'as dit, infernales, qui sont faites aux marins, qui sont des paysans terrestres qu'on a arrachés à leur terre, là encore. Hein. Violence de classe, c'est des gens qui savent pas nager, qui connaissent rien à la mer, et qui sont là pour mettre du crabe en boîte pour l'exportation hors du Japon. En plus, c'est pas du tout une pêche vivrière, tout ça. C'est vraiment la pêche industrielle, avec tous ces aspects de déracinement, là aussi, etc. De raclage, aveugle, des fonds marins, mais aussi des provinces reculées de Hokkaido. Hein, c'est des paysans, en gros, arriérés au vu de Tokyo. Donc ça, c'est un des romans. Et puis, dans les mêmes années 20, en fait, il y avait un roman apatride. Je dis ça parce que c'est un roman écrit en allemand, mais j'y tiens beaucoup. C'est aussi un anarchiste. Alors, Takeuchi, il est communiste plus marxiste, hein. Parti communiste clandestin au Japon. Pour ce qui est de Traven, qui est un des noms qu'on lui donne, mais en fait, c'est un personnage extrêmement énigmatique qui a écrit donc Le Vaisseau des Morts en 26. Et dans Le Vaisseau des Morts, c'est un marin qui se retrouve à errer de navire en navire, la combine étant que ça rapporte aux armateurs parce qu'ils font couler ces navires et qu'ils touchent la prime d'assurance. Et en attendant, en fait, ils transportent à bord des gens en errance ou en délicatesse, sans papier, ce qui est le cas à la fois de l'auteur, en fait, Traven, hein, apatride, et des personnages, en fait, et notamment du narrateur du roman. C'est un roman très, très sombre. Et le troisième roman dont je rapprochais ces deux-là, donc lui, il est plus tardif, il date de l'après-guerre, et c'est un roman suédois que tous les Suédois connaissent, ce qui a donné lieu à une super comédie musicale du groupe ABBA, qui est la saga des immigrants, en fait, de Wilhelm Moberg. Et dans la saga des immigrants, donc ça retrace un épisode historique assez tragique, en même temps un peu héroïque, de la nation suédoise. C'est l'exil assez massif de plus de, je sais plus les chiffres en tête, mais des millions de personnes qui ont quitté la Suède, où ils se sentaient corsetés par une société protestante, très étriquée, et puis des conditions de vie extrêmement précaires, pour les États-Unis. Et donc, c'est le concept de la terre promise, de la traversée pour un monde meilleur. Et là, pour le coup, les migrants qui sont à bord, c'est le deuxième tome de la saga, il s'appelle La Traversée, bah, ils espèrent retrouver un monde plus souriant de l'autre côté, sans trop savoir. Et c'est pétri de Bible, de lecture protestante de la Bible. Par exemple, il y a un épisode avec la colombe de la paix. Enfin, c'est vraiment l'Arche de Noé. Et donc, ça pose plein de problèmes. Ce troisième roman, La Traversée, du point de vue d'une écologie décoloniale, bah, c'est le mythe de l'Arche de Noé, avec tout ce qu'il charrie de terrible, hein, qui est la projection sur une terre promise sur laquelle, en gros, on va bousiller de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. C'est quand même un peu ça. Mais au moment de ce cours, j'ai pas du tout développé les pistes environnementales et éco-critiques en propre sur ces trois romans. C'est comme s'il y avait tellement de choses à faire avant que ces romans de la mer, bah, la mer, elle sert quand même un peu aussi de décor. On retrouve des problèmes de l'éco-critique quand elle naît, c'est-à-dire, est-ce que la nature existe de façon vraiment autonome dans les œuvres? Ou est-ce que c'est juste une toile de fond sur laquelle on pose d'autres enjeux, en l'occurrence plus sociaux? Je pense que c'est un peu moitié-moitié. Ce corpus, il m'intéresse maintenant d'un point de vue plus éco-critique, parce que à bien y regarder, donc en éco-poéticien, poéticienne, on regarde bien les textes, et en fait, c'est bourré d'animaux. Les animaux marins, mais pas que. Les rats, les poux, la vermine, ou comme on dit à bord, la faim. Les personnages qui meurent de faim, le fait, en fait, dans les trois romans, on retrouve l'enjeu à un moment que l'homme est un cannibale qui va peut-être manger son semblable pour survivre. Donc c'est tout le truc un peu néo-darwinien, très contestable bien sûr, de la lutte des classes qui prend les contours d'une lutte pour la vie, d'un struggle for life, un peu étrange quoi.
Moi, j'ai pas lu La Traversée, donc peut-être tu pourras nous dire, ouais. Mais pour le bateau usine que j'avais la chance de lire parce qu'il m'avait été offert par Adèle Castignol, une amie et collègue que je remercie au passage, j'avais, étant donné que bon, moi j'arrive toujours avec ma lecture éco-poétique, éco-féministe aussi, où voilà, je ne peux pas ne pas toujours chercher les questions d'intersectionnalité. Bon, je lis une traduction que j'ai trouvée merveilleuse du bateau usine vers le français. Et je dois dire que j'ai été marquée par la qualité de la plume. Alors, je ne sais pas, c'est bon, j'imagine que, évidemment, dans le texte en langue originale, il y a déjà ce travail de la plume. Et j'ai été marquée notamment, je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi pour dire que la nature n'est qu'un décor, en tout cas dans ce roman-là, car il y a un vrai travail de dialogue avec et de diffraction des paysages sonores, notamment de la géophonie, le bruit de la mer, des vagues, de l'eau, qui est vraiment très présente. Et puis toutes les textures aussi. C'est pas que, il y avait aussi les paysages haptiques de l'océan qui sont décrits. Et puis, il y a ce passage qui, moi, m'avait vraiment marqué, où grouillent les crabes qui sont en train d'agoniser et qui continuent de remuer, etc. Et enfin, pour moi, là, j'ai vraiment vu la lecture intersectionnelle où finalement, les crabes grouillés à l'agonie comme grouillent les marins sur ce bateau-usine qui maltraitent les crabes, ben, évidemment parce que c'est le travail qui leur est imposé pour leur propre survie, mais qui se maltraitent aussi entre eux. Je ne sais pas si je me souviens bien ou est-ce que je confonds avec un autre roman, mais il y a aussi des maltraitances sexuelles, des violences sexuelles qui sont imposées à bord par les plus âgés aux plus jeunes des matelots. Et donc moi là, j'ai vu une lecture vraiment, avec mon œil écoféministe, tout à fait intersectionnelle, avec beaucoup de subtilité, mais tu vois, le grouillement des crabes, je me suis vraiment dit, là, il y a quelque chose de très éco-poétique où il y a cette résistance qui passe par ce qui vient faire diffracter jusque dans sa langue. Bon, encore une fois, je lis en traduction, donc je ne sais pas quels sont les échos poétiques du point de vue du travail sur la langue dans la langue japonaise, mais en tout cas, dans la langue française, ça m'a marqué. C'est discret, mais je dirais pas que c'est pas là. Enfin...
Non, je suis d'accord avec toi. Je me suis peut-être mal fait comprendre parce que je te remercie de relever ça parce que bon, je précise que l'allemand, pour ce qui est de travail, c'est une de mes langues de travail, mais ni le suédois ni le japonais ne sont mes langues de travail. Donc, je suis comme toi, réduit à la fréquentation de la traduction. J'ai aussi lu dans les commentaires et notamment les justifications de traduction, ce que nous donne de très précieux, notamment justement Evelyne Le Cygne d'Oly sur le texte japonais et ce qu'elle a tenté et à mon sens réussi à rendre en français. C'est, comme tu viens de le dire, la musicalité étrange, géophonique, biophonique et sociophonique peut-être, je ne sais pas, du grouillement et tout ça. Je te rejoins absolument sur la lecture écoféministe nécessaire et en fait dictée par le texte lui-même. C'est le chapitre 4 qui est consacré en focus comme ça aux violences sexuelles. Et effectivement, il y a des garçons à bord. C'est un univers exclusivement masculin et ils sont pris pour cible par les marins les plus anciens de façon tout à fait évidemment lubrique, criminelle, etc. Et tout ça est décrit avec beaucoup de naturalisme, c'est vraiment le roman naturaliste à la Zola, sans concession. Intéressant parce que moi qui travaille maintenant un peu plus sur des sujets queer, en fait, c'est toujours intéressant de se souvenir que Zola, il y a un des romans qui fait pas partie de la toile qu'on connaît, qui est resté un peu à l'état de projet, qui était un roman sur l'homosexualité masculine. Et quand j'ai ça en tête, en fait, je me dis que dans le projet de Kobayashi Takiji, dans le bateau usine, il y a aussi l'idée d'envisager le monde social comme un milieu qui peut être abordé avec les outils de l'observation naturaliste, quoi. Ils sont tous finalement un peu la proie les uns des autres. Et c'est vrai que c'est des textes aussi. C'est des textes avec une musicalité. Mais d'ailleurs, on devrait en lire un. en fait, j'ai en tête cette citation, par exemple, dans le bateau usine. Avant de dormir, les hommes ôtaient leurs chemises de tricot ou de flanelle, rêches et informes à force d'être crasseuses. On aurait dit des calamars séchés. Ils les étalaient sur le poêle, puis s'asseyaient tout autour, chacun soulevant un bout de vêtement comme on le fait en famille avec la couverture de la table chauffante. Quand les vêtements étaient chauds, il les secouait. Des poux et des punaises tombaient alors sur le poêle avec un petit bruit sec et une odeur forte de chair humaine grillée.
Il est marquant ce livre.
Vraiment. Et alors, on peut ajouter que en 2008, il est redevenu un best-seller. C'est quand même pas courant aussi. À la faveur d'une crise sociale, celle qu'en Occident, on connaît comme les subprimes, hein, la crise donc notamment de chômage de masse et ça. Au Japon, sans être économiste comme Lordon, bah, je crois avoir compris que là aussi, il y a une précarité généralisée qui est accrue en 2008. Et c'est le moment où ce texte, longtemps interdit au Japon parce qu'il faisait lèse-majesté, etc., est remis au goût du jour, devient... alors, j'ai pas eu le temps de développer le 28 février, mais il devient un film à cette aberration près que le film a tellement de succès qu'il y a des produits dérivés, dont du surimi. En fait, on vend du crabe de mauvaise qualité, produit dans des conditions exécrables socialement, le tout dans le sillage et pour la promotion d'un film. Voilà. C'est l'éternel recyclage absurde, en fait.
C'est dans le cynisme.
C'est le contresens absolu, quoi. On va vendre du surimi sur le succès du bateau usine.
Ah oui, oui.
On peut peut-être remonter un petit peu dans le temps et aborder un autre classique de la littérature prolétarienne sur la mer et les travailleurs de la mer. C'est justement Les travailleurs de la mer de Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ce roman du point de vue de l'éco-critique bleue? Qu'est-ce qu'il a fondé?
Merci beaucoup. C'est une question très intimidante parce que, en fait, je n'en suis vraiment pas spécialiste. Moi, j'en suis un lecteur émerveillé adolescent. Je me souviens très bien que ce roman, de par son titre seul, déjà, il m'a donné envie. C'était pas n'importe quel Victor Hugo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de travailler en mer? Et ce qui m'a marqué tout particulièrement, c'est une scène. Du coup, je réponds un peu à côté parce que je pense qu'il y aurait une bibliographie que je ne connais pas et à ce moment-là, je peux pas la citer malheureusement. Je pense aux travaux, par exemple, d'Elisabeth Place. À mon avis, elle a travaillé sur Michelet. On n'est pas loin de Hugo. Je veux dire par là que ça m'étonnerait pas qu'elle ait des choses à dire, par exemple, sur ce que les travailleurs de la mer ont à voir avec une éco-poétique ou une éco-critique bleue, si tant est que ces travaux aient été menés, ce que je suppose. Mais moi, je pense à une scène en particulier qui m'avait marqué enfant, dans laquelle, en fait, le personnage n'est pas seulement l'homme, Gilliatt en l'occurrence, le marin, mais la pieuvre avec laquelle il se bat pendant, 20, 30 pages. Il y a un combat à main nue avec une pieuvre. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu l'impression d'être aux prises avec l'inconnu. Tu parlais tout à l'heure de Karen Barad. Enfin, il y a une lecture à faire, là aussi, de performativity, de queer performativity of nature. Pour moi, on est en plein dedans avec la pieuvre de Hugo, parce que, en fait, c'est immense, c'est un géant, on ne sait pas où il commence, où il s'arrête. Là aussi, tout est interaction. Je suis aspiré par les ventouses du poulpe, mais en même temps, j'y peux quelque chose. Et quoi? C'est fascinant. Ça serait écrit aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait peu de choses à modifier en termes de connaissance ou de reconnaissance du fait qu'on ne connaît pas. C'est une nature qui est inconnue, quoi.
C'est vraiment des passages les plus importants, avec aussi le passage, il y a les calamars géants chez Jules Verne, dans Vingt milieux sous les mers, où il y a ces formes de vie géantes et qui sont décrites et perçues comme des monstres, et qui quelque part sont un petit peu des métonymies de notre écophobie, là, où, dans nos façons de relationner avec la mer. Moi, ce qui m'intéresse dans ce titre aussi, sur les travailleurs de la mer, c'est que le complément du nom de la mer, il est potentiellement polysémique. Les travailleurs travaillent-ils la mer? Travaillent-ils, toi, tu as dit en mer. C'est intéressant, tu as dit comme ça. Est-ce que peut-être ils appartiennent à la mer? À qui appartiennent-ils, en fait? C'est... En termes d'agentivité, ce roman, il est intéressant. Et d'ailleurs, il s'ouvre, il me semble, sur de très belles descriptions de la côte, du côté de Saint-Malo, etc., là où se situe le roman. Et en fait, ce qu'il décrit en premier, c'est le travail de la mer qui a travaillé la côte.
Excellent.
Et donc, en termes de lecture éco-critique, bon, ça, c'est un petit peu les postulats de départ de Lawrence Buell, quand il a défini un petit peu ce champ-là, où il dit, premièrement, dans les textes écocritiques, on s'intéresse à des textes où la nature autre qu'humaine n'est pas simple décor et elle a une agentivité qu'on lui reconnaît. Et en plus, il y a une façon d'imbriquer histoire naturelle et histoire des humains. Donc là, on est vraiment là-dedans dans les travailleurs de la mer. En fait, on commence presque par le temps long. On est même dans une le temps géologique.
Et les noms, si je me souviens bien, si tous les noms de la société bretonne ou Grande-Bretonne, enfin les noms qu'on donne aux personnes, alors pour le coup humaines, mais selon leur place, etc.
C'est exact.
Et je trouve que c'est ça qui répond le mieux à votre question. Moi, je me souviens aussi de la fin, enfin sans spoiler. Moi, j'adore spoiler. J'en engage pour moi.
C'est le moment de sauter 15 secondes dans le podcast si vous ne voulez pas
savoir la fin du travailleur de la mer. Bah, c'est ça. J'y vais. Hein. En fait, à la fin, si je me souviens bien, le personnage principal se suicide, en fait. Le mot n'est pas dit comme ça, mais en fait, se laisse mourir dans la mer, se laisse enlever par la marée montante. Si je dis pas de bêtises, il s'assoit sur une chaise ou un rocher qui, par analogie de forme, ressemble à un trône. Et il se laisse emmener par la mer. Et donc, il laisse travailler la mer sur lui. Il se laisse revenir à l'élément primitif. Et donc, c'est une manière de dire qu'il en fait partie depuis le début. Et effectivement, c'est non seulement... Alors, ça tire les larmes, parce que c'est étonnant. On se dit, mais à tout moment, s'il se levait, ça renvoie à des angoisses très enfantines ou infantiles, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a toujours choqué, la noyade, parce que je me dis, mais en fait, il y a un moment donné où une noyade par volonté, c'est pas possible. On peut pas vouloir se noyer, parce qu'à un moment, le corps se défend, il se retire de l'eau, et il cherche à respirer. Mais si je me souviens bien, dans cette dernière page, c'est un peu l'idée qu'il se laisse emporter par une force qui le dépasse et qu'à la limite, il en redevient ou qu'il en devient partie. Je trouve que c'est intéressant en termes, effectivement, de non-séparation. Il n'y a pas d'un côté le sujet que serait Gilliatt et de l'autre côté l'objet qui serait la mer. C'est peut-être, et je te remercie de la suggestion, moi, je n'avais pas pensé à ça, mais la mer qui travaille le roman, la mer qui travaille Gilliatt.
Et je voulais revenir juste sur ce que tu disais avant qu'on passe à la prochaine question qui va nous faire changer là de nouveau de contexte géoculturel et linguistique. C'était juste par rapport à ce que tu disais sur l'exploitation du roman et voilà les conditions dans lesquelles on consomme ce qu'on consomme en ayant conscience. Et de tout ça, j'étais frappée le week-end dernier, enfin jusqu'à samedi soir, j'étais à l'Université de la Terre organisée à l'UNESCO et j'ai assisté à un très bel atelier sur les questions de pêche et de surpêche. Y a-t-il des méthodes de pêche qui sont durables, lesquelles, etc. On a beaucoup discuté des labels de pêche durable, ce que ça recouvre vraiment, la pêche à la ligne. Voilà, peut-être que quand on achète encore du poisson, le seul critère pourrait être la méthode de pêche artisanale à la ligne, à pied. Et entre autres, ce qui a été dit, dont en fait j'ignorais un petit peu cela, c'est que les grands chalutiers, bon, on sait très bien les ravages au niveau écologique causés par la pêche aux chalutiers, qu'en réalité encore aujourd'hui, les grands chalutiers partent plusieurs jours durant, parfois plusieurs semaines durant, avec leurs énormes filets, donc bon, ça c'est le principe de la pêche aux chalutiers, qu'ils draguent, qu'ils traînent derrière eux, et en fait les filets sont relevés toutes les 3 heures. Ils les traînent pendant une demi-heure, si j'ai bien compris, et après ça entraîne 1h30 de travail pour les remonter, pour les vider, et puis pour trier. Et en fait, les travailleurs de la mer d'aujourd'hui partent des jours entiers, parfois des semaines entières en mer, dans des conditions diverses et variées, dans des chalutiers où ils sont quand même entassés les uns sur les autres, où ils pratiquent un métier qui est extrêmement dur quand même, où ils vont être exploités, la vie de la mer, mais surtout dans des conditions terribles, puisqu'en gros, ils peuvent pas dormir que de façon interrompue, qu'ils travaillent nuit et jour. Et la personne qui nous disait ça parlait de certaines révélations qui ont été faites, que ça a causé beaucoup de, évidemment, de burn-out, on peut s'y attendre, mais qu'il y avait beaucoup, en fait, une grosse consommation de drogue à bord de ces bateaux, parce que c'est la seule façon de tenir. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. Depuis tout à l'heure, on parle, en fait, de romans maritimes, très très connu, mais que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les poissons qui sont vendus dans beaucoup de supermarchés et même dans certaines poissonneries sont encore le fruit de méthodes de pêche qui exploitent autant et de façon assez cruel et non nécessaire la vie marine que la vie humaine.
Ouais. Ouais. Je te remercie de recadrer les choses sur le réel. Moi, en tant que littéraire, je me suis plus souvent intéressé à la non-fiction qu'à la fiction. Et là, dans ces romans maritimes, pour revenir à eux rapidement, elle est très documentée, cette toile de fond. Le réel est toujours là. Ce que tu dis me rappelle la visite d'un chalutier que j'ai faite il y a 4 ans. Je m'attendais justement en termes de perception haptique à ce que ça sente le poisson. Je vais dire une bêtise hyper naïve. Mais en fait, ce qui m'a frappé, c'est l'odeur de ce chalutier de A à Z. C'était le mazout. C'était le pétrole, quoi. Comme si la matière première, en fait, de cet instrument de travail, qui est quand même aussi une merveille de technologie et tout. Enfin, je le dis, il y a un truc de prouesse de faire flotter ces engins des mers. Et parce qu'il y a aussi des super gros bateaux-usines qui raclent les fonds, mais il y a aussi des chalutiers qui font pas ça. Mais donc, c'est comme si la matière première, c'était le pétrole plus que le poisson lui-même. Et l'autre chose qui m'avait frappé, c'est que le commandant de bord, il nous avait bien expliqué qu'ils avaient un tableau en temps réel. Et j'ai envie de dire, dans la suite de la remarque qui était la tienne, à flux tendu, donc effectivement, avec des drogues, avec une espèce d'attention qui doit jamais s'éteindre, il y avait un tableau qui, en temps réel, manifestait quelles espèces pêchaient en priorité. Celles-là, on a trop par rapport au cours. Celles-là, on doit empêcher parce que le cours est bas et qu'on a le droit et que les quotas sont pas atteints. Et donc, une espèce de bourse à bord. Comme si, en fait, finalement, la réalité première, c'est une réalité extractiviste de commercialisation du vivant qui se manifeste comme un tableau qui est l'apparition transcendante de Dieu et des ordres. Enfin, la commande est là. Elle est face à... Il y a la mer et le réel, mais en fait, plus réel encore. Il y a le tableau qui dit « Faut pêcher plus de flétans, faut pêcher moins de merlus, faut pêcher, etc. » Je dis n'importe quoi. Moi, j'ai ressenti très fortement l'impression qu'il y avait le réel et le hors-sol qui se rejoignaient sur un seul endroit. La commande désincarnée qui vient d'en haut et qui dit « C'est ça qu'il nous faut parce que la loi a dit ça, l'économie dit ça. » Et le marin qui fait ce qu'il peut pour deux jours comme deux nuits, en effet, dans un temps ramassé par rapport au pétrole qu'il doit consommer le moins possible, et les conditions météo et tout ça, arriver à produire le plus de matières premières dans le moins de temps possible. C'est comme un jeu impossible, quoi. Et effectivement, je trouve que ça met le travailleur, la travailleuse, dans une situation presque absurde de... évidemment, c'est une visite d'une heure que je fais dans un chalutier, mais d'obéissance à quelque chose qui n'est pas son corps. Enfin, on devient de machine. En fait, il y a un devenir machinique, je pense.
Ah, oui. Et c'est intéressant que tu mentionnes les odeurs, parce que il me semble que dans le bateau usine aussi, c'est extrêmement prégnant.
Le mazout.
La façon dont les paysages olfactifs, en fait, ils sont écœurés parfois par l'odeur. Du mazout, mais aussi leurs propres odeurs corporelles, et puis de crabes, puisqu'ils sont toujours, en fait, complètement physiquement entrelacés avec
englués.
Cette chair qu'ils manipulent.
Ouais, c'est ça. L'endroit où ils dorment s'appelle le merdier. En
fait. Ah, ben oui, c'est ça. Ouais.
Ça leur colle à la peau.
Ouais, on est vraiment la matière. Ouais. Et merci aussi d'avoir amené cette question, du rapport entre fiction, réel ou non-fiction. Et je voulais préciser, peut-être pour nos auditeuristes, je sais qu'une fois, c'est une question qui m'a un peu marquée, voire j'avais été assez susceptible à cette question. C'était une de mes sœurs qui m'a dit « Mais enfin, tout ce travail que tu fais sur la fiction, mais ne t'intéresses-tu donc pas au réel ?» Et alors, je me suis dit « Mais vraiment, il y a une incompréhension de la part de beaucoup de personnes qui sont peut-être pas spécialistes de littérature, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, dans la littérature, et les auteurs et les autrices de fiction ne sont pas ou que très peu, simplement dans des mondes imaginaires qui seraient déconnectés de la réalité, des faits, du monde que nous habitons, mais que c'est un choix délibéré comme façon de pouvoir en parler, en traiter, et de s'adresser aussi à des publics qui peut-être ne liraient pas la non-fiction ou la science qui porte sur les mêmes sujets, mais qui veulent bien se prêter au jeu d'une lecture dont ils pensent précisément que c'est de la fiction. Ouais. Et qu'en fait, il y a un pouvoir là de la fiction, c'est de se faire passer pour quelque chose de tellement fictionnel que, en fait, si on lit une histoire de travailleurs de la mer maltraités, c'est un roman. Et en fait, souvent, c'est plus vrai que nature et qu'il y a bien sûr une prise avec la réalité, le réel, qui est vraiment extrême. Je voudrais que tu nous parles, puisqu'on parle de violences faites aux humains, à la vie marine. Un concept que tu as proposé de violence faite aux fleuves.
Ah oui.
Lors de ta conférence, tu évoques un projet de transfert nord-sud en Chine. Mmh. Il s'agit d'un projet titanesque qui avait été souhaité au départ par Mao Zedong, je crois, et qui était voué à déplacer les eaux du fleuve Yangtze, si je le prononce pas trop mal, du sud vers le nord pour en maîtriser les flux. Et donc, tu nous disais combien, selon toi, cela représente une violence faite aux fleuves. Alors, qu'est-ce que tu entends par cela? Et comment est-ce qu'une telle violence permet de mettre en lumière les entrelacs entre les mondes humains et les mondes non humains?
D'accord, merci beaucoup. En fait, le hasard veut, on enregistre ce podcast à Nantes. D'ailleurs, je suis très heureux, le fleuve, il n'est pas loin. En fait, c'était à Nantes que j'avais vu ce film qui m'avait complètement secoué, qui est un film français de Antoine Boutet, qui est un réalisateur de documentaires, et qui a fait un film consacré à ce projet infini, pas fini, entamé il y a quelques décennies en Chine, effectivement. Le film s'appelle justement « Sud, haut, nord, déplacé », qui est une sorte de traduction littérale de chacun des quatre sinogrammes du titre, qui est donc « Nan, Shui, Pei, Tao ». Et c'est le nom du projet. Tout simplement, c'est une reprise du nom du projet maoïste de grand aménagement. En fait, c'est un truc pharaonique hein, qui consistait à déplacer effectivement les eaux, si j'ai bonne mémoire, plus prévisibles du fleuve du sud, hein, le Yangtze, le fleuve bleu, vers le nord de la Chine, plus désertique, plus capricieux et imprévisible dans son hydrographie. Parce que bah la capitale, elle est au nord, Pékin, elle commande au sud, hein. Et donc, elle a besoin de plus d'eau, et donc il y a tout ce truc de violence territoriale, de colonisation intérieure, si on veut. Les paysages du sud doivent obéir aux paysages du nord, quitte à donner de façon tout à fait absurde. C'est un peu comme ce que les Soviétiques avaient fait avec la mer d'Aral. C'est le même genre de grand projet complètement infaisable. Et donc, ce film est complètement sidérant, parce qu'il nous montre les images de ces canaux gigantesques tracés à travers les chaînes de montagne, en dépit du bon sens. Là, on a vraiment, comme nous disions au début de l'entretien, c'est pas Yu le Grand. Là, c'est son ancêtre Gun, hein, qui échouait à boucher, à endiguer, à conduire, à emmurer le fleuve. Et pourtant, je dis, et pourtant, j'ai l'air de m'en étonner, mais la Chine de la révolution culturelle, c'est l'effacement, hein, c'est l'amnésie par excellence de la mémoire linguistique, culturelle, littéraire, artistique. Effacer le passé, faire la table rase. Et du coup, c'est pas très étonnant de voir que le mythe dont nous parlions tout à l'heure, là, il est complètement inversé et oublié. Il consiste à refaire la même grosse bêtise que dans le mythe, prétendre imposer la puissance humaine au milieu en allant contre, en s'obstinant, et ça ne marche pas. Et c'est un film magnifique sur cet échec et qui, à mon sens, incarne un peu de tous les grands projets inutiles. Je pense au barrage de Sivens, pour lequel beaucoup de gens ont eu l'écho médiatique hein, malheureusement de la mort de Rémi Fraisse, militant contre ce barrage comme un projet inutile qu'il était et mort du fait de violences policières à son encontre parce qu'il faut bien que la force de l'État par raison d'État s'applique et impose sa violence et à la nature et aux militants militantes environnementalistes. Donc je m'égare un peu mais en fait il y a des questions extrêmement politiques dans tous ces lieux où passent des aménagements somptuaire et inabouti, quoi.
Il me semble que lors de ta conférence, tu avais commencé par une peinture qui représente le soulèvement d'un fleuve.
Exactement.
Alors, ça me faisait penser à ça, ce que tu viens de dire.
Ouais, c'était la peinture « Le fleuve jaune sort de son lit » de Ma Yuen, qui est au musée à Pékin, et qui, pour moi, témoignait du fait que dans la culture traditionnelle, dans cet exemple taoïste, hein, on célèbre, on magnifie, on documente, on donne à voir que parfois, la nature, c'est quelque chose qu'il faut pas vouloir dompter, mais c'est plutôt quelque chose avec quoi, comme nous le disions, on va devoir un peu composer. Il y a un verbe que j'ignore en chinois qui est sortir de son lit. Il y a un verbe pour ça. Il y a une manière de dire que, comme nous, on parlerait de crue. On sait bien que la crue du Nil, c'est aussi ce qui le rend fertile. Donc, il faut pas chercher à aller contre. Toutes les cultures de l'eau, intelligentes, je dirais, ont utilisé cette force du fleuve, y compris cette force meurtrière du point de vue d'homme, du point de vue humain, disons. Donc je pense que cette peinture, pour moi, elle témoigne de ça. il faut pouvoir laisser le fleuve ou le ruisseau en fait déborder, changer de cours, changer de lit, avoir plusieurs lits. Important ça aussi.
Cette idée d'une gestion un peu intelligente du fleuve et de l'eau qui soit plus de l'ordre de le laisser prendre sa place et de le laisser se transformer, c'est quelque chose que vous avez évoqué aussi à travers la puissance créatrice du castor dans le dernier ouvrage de Baptiste Morisot avec Suzanne Husky qui s'appelle « Rendre l'eau à la terre ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi les nouveaux rapports à l'eau qui sont explorés dans cet ouvrage, déjà est-ce qu'ils sont si nouveaux et en quoi est-ce qu'ils peuvent être source d'inspiration pour nos sociétés?
Merci beaucoup. C'est un ouvrage que je trouve absolument fascinant, que j'ai découvert après coup. Il est très récent, en fait. Quand j'avais fait tous ces travaux où je cherchais un peu entre douce et eau salée, cette histoire d'une dialectique du non-agir, de la non-intervention, du laisser-faire, peut-être. Et ben, en tombant sur cet ouvrage, j'étais très heureux de constater qu'en fait, on a de nombreuses pistes partagées. Ce qu'ils expliquent, Suzanne Husky, la dessinatrice de ce très beau livre, et Baptiste Morisot, ce qu'ils expliquent, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a eu effectivement toute une histoire dont nous n'avons plus toujours bien conscience, d'alliances, hein, ce qu'ils appellent des alliances entre le castor en tant qu'espèce ici un peu paradigmatique. Je pense qu'on pourrait élargir à plus d'espèces que le simple castor si je ne trahis pas leur pensée. Et des humains habitant les rives d'un fleuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a connu comme fleuve, c'est une ligne bleue qui traverse un paysage, qui ne s'arrête pas, qui va d'un point A à un point B à la vitesse la plus... enfin, une vitesse invariable. Et on va s'en servir pour faire circuler des bateaux, pour faire des barrages, tout ça. En fait, ce qu'il montre, c'est que quand il y a à nouveau, aujourd'hui chez les militants écologistes, mais autrefois chez des peuples, alors je ne suis pas sous de contrôle béné, mais par exemple chez des peuples premiers d'Amérique du Nord, il y a eu des alliances explicites entre le peuple castor aménageant à sa façon les cours d'eau et certains peuples premiers d'Amérique qui du coup laissent le castor faire quelque chose sans prétendre être la force aménageante anthropique du fleuve. Non, non, un fleuve, c'est aussi... Ça va mieux quand c'est castorisé, parce que l'eau, elle va moins vite, elle s'étend sur les côtés, le castor étant une sorte d'animal à faire circuler l'eau et à lui faire prendre sa force vitale et à en faire profiter tout le paysage, quoi. Ça crée des zones humides, enfin. Je refais pas la démonstration à leur place, elle est extrêmement bien faite dans le livre, et je trouve que c'est très parlant sur... cette dialectique où, en fait, parfois, agir consisterait à ne plus agir. Mais en même temps, quand je dis ça, j'ai parfaitement conscience qu'il y a un danger et un gros biais qui est, du coup, en fait, en matière de gestion de l'eau, faut plus rien faire. Et je pense que j'ai absolument pas à documenter pour dire une chose pareille, c'est pas mon intention. Le problème aussi, c'est que, pour prendre un côté plus latourien, aujourd'hui qu'on a des fleuves aménagés avec des barrages, on va pas faire comme s'ils n'existaient pas d'un seul coup. Il va falloir peut-être les démanteler. Mm-hmm. Tout le travail de choses comme héritage et fermeture. Mm-hmm. Hein, c'est maintenant qu'on a nos centrales nucléaires sur des fleuves, elles font partie du fleuve. Donc,
dans beaucoup d'endroits, il faut démanteler, il faut restaurer.
Voilà. Ce qui a été on va devoir faire avec aussi la technostructure.
Ouais. C'est peut-être moins la question d'agir ou de non-agir que d'inclure des multiples agentivités sur le fleuve. Et notamment, je trouve que ça questionne beaucoup l'idée de propriété privée autour de l'eau, à qui appartient le fleuve, qui a le droit, qui n'a pas le droit d'agir dessus. Finalement, cette notion de propriété privée, ça va un peu à l'encontre de la compréhension du fleuve dans ses multiples dimensions.
Ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs amusant parce que quand il y a barrage, souvent, c'est des histoires de propriété privée à l'échelle des États. De la géopolitique, quoi. Typiquement, la querelle entre Égypte et Soudan sur le barrage d'Assouan. Évidemment, si on fait un barrage à un endroit, ça veut dire que les populations en aval, elles n'ont pas droit à tout ce que fait vivre le fleuve, ou en tout cas pas de la même manière, quoi.
Ça me fait un petit peu penser à ce livre, enfin, certaines parties du livre de Claudine Brelet, dont on a décidé de faire une lecture partagée à l'intérieur de notre séminaire Seymour Glow. Réenchanter l'eau, qui passe en revue beaucoup de pays d'Afrique, le Niger, le Cameroun, le Mali, et où elle met en regard à la fois des mythologies, des cosmogonies de l'eau qui déterminent, orientent, organisent quelque part le rapport et la façon de se représenter l'eau pour les humains et les sociétés humaines, mais aussi en termes de géopolitique. Elle parle de certains endroits où, en fait, sur certains bassins versants, il y a différents peuples qui habitent des territoires qui sont en fait réunis et non pas divisés, délimités, réunis par un même fleuve qui, si on respecte les soulèvements, les débordements du fleuve, enfin, si on le laisse juste faire, hein, le laisser faire du fleuve, quelque part dicte le calendrier et le partage des activités en fonction des saisons, des pluies et des débordements du fleuve, où on a différents peuples qui se partagent les façons dont on peut utiliser et cultiver avec le fleuve, donc des peuples de pêcheurs, d'agriculteurs et je sais plus, des chasseurs, hein, je crois, qui en fait, quelque part, se partagent les différents usages des terres traversées par ce fleuve, irriguées par ce fleuve, en fonction de la vie du fleuve.
Exactement. J'ai été frappé comme toi, par exemple, quand elle parle des Igbo et deux peuples qui, justement, se rencontrent dans le fleuve ou autour du fleuve ou à côté du fleuve ou dans l'éponge d'une forêt humide type mangrove, hein, si je dis pas de bêtises, d'un delta de fleuve, c'est aussi les vivants et les morts. Avec oui. Moi, j'ai appris des choses en lisant Claudine Brolet. C'est un excellent ouvrage pour profanes, en fait, quand on connaît pas aussi une culture en particulier. Elle y invite particulièrement, je trouve. L'une des rencontres que permet le fleuve, c'est aussi le partage entre le vivant et le mort. Si on pense à l'Inde, où un fleuve, c'est un endroit où on va se baigner, mais aussi un endroit où on va laisser les morts partir. Enfin, on est tenté de faire une mythologie comparée un peu sauvage à l'échelle du globe en disant, mais au fond, c'est vrai que dans toute société, il y a des fleuves et souvent, ils ont structuré la vie sociale. C'est presque un peu les colonnes vertébrales de plein de manières assez différentes de construire une société, et qu'elle soit rurale ou urbaine, traditionnelle, moderne, etc., technique ou pas. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est un ouvrage qui donne envie.
Alors, Bertrand, si tu devais choisir peut-être simplement deux ou trois lectures que tu souhaiterais recommander à nos auditrices, quelles seraient-elles?
C'est une question épineuse, mais sans trop hésiter. Il y a une lecture que je trouve vraiment passionnante. C'est une anthologie, donc c'est une manière de répondre sans répondre. C'est une lecture qui en comprend plein, mais c'est Les veines de la terre, une anthologie des bassins versants, publié chez Wild Project, et en plus c'est dans la collection Petite Bibliothèque d'écologie populaire, ce qui est intéressant en soi, ce qui rejoint peut-être une partie des choses qu'on s'est dites autour de Reclus, et alors Reclus en fait partie. Peut-être il y a un texte en particulier dedans qui moi m'a marqué, qui est le texte de Sonny Laboutansi à propos du Congo, et dans lequel on retrouve aussi un exemple de violence faite au fleuve, violence sociale, violence coloniale, violence économique. Parce qu'en fait, le fleuve Congo, sous sa plume, alors là, on a aussi un excellent exemple d'éco-poétique du fleuve, parce que c'est écrit à la manière d'un fleuve, c'est généreux, ça déborde, c'est très riche comme prose, ça charrie beaucoup de choses. Cette anthologie, Les veines de la terre, elle réactive en fait une métaphore assez connue, ancienne, peut-être un peu éculée, mais qui mérite d'être réappropriée aujourd'hui, je pense. Puis alors l'autre lecture, je pense qu'on en a parlé, ça pourrait être rendre l'eau à la terre, alliance dans les rivières face au chaos climatique, de Suzanne Husky et Baptiste Morizo.
Je voudrais juste souligner que ton lapsus était intéressant, c'était pas mal aussi rendre la terre à l'eau.
Je suis d'accord, c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure, parce que en fait c'est processuel où ça s'arrête l'eau. L'autre jour, je parlais à mes étudiants de cosmologie chinoise justement, et on présentait ces cinq éléments. L'eau en est un, la terre aussi. Mmh. En Chine, on enlève l'air et on ajoute le bois et le métal. Mmh. Il y a deux cycles, en fait. Il y a un cycle de contrôle, un élément qui est capable d'éteindre un autre. Bah, l'eau est capable d'éteindre le feu. Mmh. Et il y a aussi un cycle de génération. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle engendre? La terre. Mmh. Et dans le Wuxing chinois, en fait, l'eau, elle n'est qu'un état de la matière qui va donner lieu à un autre, et peut-être que c'est une danse aussi, c'est une manière en fait d'envisager les choses de façon moins essentialiste. Mm-hmm. Peut-être que c'est le moins essentialiste des éléments aussi, l'eau. Mm-hmm. C'est peut-être celui qui emblématise le mieux à nos yeux la modification, parce qu'on a la glace, la sublimation en vapeur, et puis l'eau liquide, quoi. Donc il y a en jeu peut-être une petite leçon de changement, de transformation.
C'est ça.
C'est un peu quantique, si j'ose.
Oui,
si j'ose.
Oui, en fait.
Ouais, c'est un peu quantique.
Ouais. Et tu avais une troisième lecture à recommander?
Peut-être sur la route du Danube de Emmanuel Ruben, parce que en fait on est ici à Nantes sur la Loire, mais en remontant un peu le cours, en pensant à Emmanuel Ruben qui était venu plusieurs fois à Angers nous parler, et notamment de ce livre qui est un récit de voyage en remontant le fleuve Danube, en empruntant la même route que les migrants dans les années 2015-16. Je crois qu'il a voyagé en 2019, mais il fait ça à vélo. Et c'est un très beau livre sur l'idée très reclusienne que autour de la fameuse ligne bleue d'un fleuve, en fait, c'est pas une ligne bleue, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est comme le castor, hein, c'est tout ce qui baigne dans ce bassin versant. Et ce livre fait ça très bien d'une manière historique à travers l'Europe de l'Est. C'est une très belle illustration aussi de philosophie du fleuve, quoi.
Bien, merci beaucoup Bertrand Guez.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.
Alors, c'était le 5e épisode du podcast See More Blue, consacré aux imaginaires marins, mais surtout aux questions sociales dans les romans maritimes, entre autres, lus dans une perspective éco-critique bleue, avec Bertrand Guez, que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. J'étais en compagnie de Lucie Véjou, que je remercie, et bien sûr, nous remercions Goulane Labat à la technique et la Maison des sciences humaines Ange Guépin pour le soutien et l'accueil. Nous nous retrouverons bientôt pour le 6e épisode de See More Blue, où nous aurons le plaisir d'accueillir Franz Minard et Odile Delfour du CDMO, soit du laboratoire, le Centre de recherche en droit maritime et océanique. Ce podcast est enregistré avec le soutien de et dans les locaux de la MSH Ange Guépin à Nantes, grâce à l'appui pour la technique de Goulane Labat. Il est également soutenu par l'UA, l'Université d'Angers, et il est rattaché au séminaire de recherche interdisciplinaire See More Blue, et dont les co-porteureuses, Béné Meillon, moi-même donc, et William Pilot, appartiennent au laboratoire Le Trois Lames et l'UMR Témos. Pour plus de renseignements sur notre séminaire, ses objectifs, ses activités de recherche, ses nombreux partenaires scientifiques et soutiens financiers à Angers, Nantes et ailleurs, rendez-vous sur le site écopoétique hypothèse.org où vous trouverez un onglet See More Blue assorti d'un menu déroulant qui vous permettra de naviguer en ligne et de prendre le large avec nous vers des imaginaires plus bleus. On vous souhaite du bon vent dans les voiles ou de prendre une bonne respiration pour plonger avec nous sous la surface de l'océan et dans des mondes aquatiques.